matters to you at this moment, but that's all that matters to me. How are you?
Est-ce que vous me recevez ?
Ici l'onde, votre émission des associations. HDR, le mix des cultures. Bonjour à tous et bienvenue sur votre émission Ici l'onde de 17h à 18h. Ravi de vous retrouver pour ce moment d'échange, de partage autour de la vie associative et des personnes qui font la vie associative. Vous êtes peut-être dans le bus, chez vous ou peut-être encore au bureau, au travail. Enfin bref, peu importe où vous vous trouvez. Aujourd'hui, on est ensemble, on parle association. Et puis, je ne suis pas seule pour une fois parce que quand on fait une émission seule, on a aussi le plaisir de pouvoir retrouver retrouver des camarades bénévoles aussi dans les ondes des mix des cultures. Je suis avec toi, Flore. Bonjour, Flore.
Bonjour, tout le monde.
Peut-être, Flore, on te connaît à travers ta page Facebook, les mamans d'HDR, ou alors quand tu es dans la matinale du pire reste à venir, tous les mercredis matins de 8h à 9h au passage.
Oui, tout à fait.
On te retrouve ici et puis sur ta nouvelle émission Répartons. Donc, ça me fait plaisir aussi de pouvoir partager une émission avec toi. C'est très rare qu'on partage des émissions, mais quand on le fait, on est bien contente.
Oh, j'en suis ravie, vraiment enchantée.
Et puis, toi et moi, on n'est pas seuls parce qu'on ne va pas faire l'émission toute seule. C'est pas toi que je viens interviewer, hein, quoique tu auras peut-être des choses à me faire partager dans tes autres engagements. Mais il s'agira de Clémence et Elena de l'association Autium. Bonjour, mesdames.
Bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Très bien, merci.
Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir pris le temps aussi d'échanger avec nous. On va un peu parler de votre association, comme on a l'habitude de le faire avec tout le monde. Vous allez passer aussi un peu du temps, une heure à échanger avec nous, à vous présenter, à présenter aussi l'association, ce qu'il y a derrière aussi, et puis comprendre un peu tout ça. Forcément, la première question qui vient et qui permet un peu de poser tout de suite le décor, mais on dit Autium, mais si vous deviez résumer votre association en une phrase qui ne soit pas institutionnelle, vous direz quoi ?
On dirait que Autium, c'est surtout l'histoire des liens entre êtres humains et de redonner du sens et au-delà du sens, de redonner de la matière dans les liens qu'on a entre humains. Et la matière, c'est clairement la transmission. C'est Autium, c'est l'histoire de la transmission d'humain à humain.
Peut-être quelqu'un voulait compléter, j'ai dû couper une parole. Pas du tout. On va se tutoyer si vous le voulez bien et si tu le veux bien. On parle d'histoire de transmission et d'ailleurs, ce mot histoire, comment est né Autium ? Est-ce qu'il y a eu un déclic ? J'aime pas dire ça, mais une frustration, une urgence. À quel moment vous vous êtes dit toutes les deux, ok, ça peut plus rester une idée, on doit créer quelque chose ?
Alors avec Clémence, on se connaissait déjà d'avant en tant qu'amie, en tant que collègue au sein d'une autre association. Autium, il est né le 26 juin 2024 et en fait ça a été à la suite d'une conversation le 25 juin 2024, donc vraiment ça s'est fait extrêmement rapidement. On a toujours eu des valeurs qui matchaient et on avait vraiment l'élan de créer quelque chose ensemble. Et donc on a choisi de réaliser Autium pour pouvoir concrétiser nos projets à toutes les deux. En l'occurrence, personnellement, le projet d'école, il y avait une sorte d'urgence dans la temporalité pour mon enfant qui rentrait à la maternelle. Mais sinon, c'était surtout une envie profonde qui venait des entrailles.
C'est vrai que tu as un peu commencé un peu à parler de l'histoire un peu de l'association. Et il y a un moment, je vais un peu me tourner sur un peu des questions de parcours aussi, parce qu'on le dit souvent dans cette émission que l'engagement associatif est d'abord né d'engagement de parcours, d'engagement personnel, parfois de choses, de vécu aussi, qui fait qu'on peut être engagé. Y a vous deux qui est avec moi aujourd'hui, mais qui sont les personnes derrière Autium ? Est-ce que c'est vous deux ? Est-ce qu'il y a des personnes avec vous ? Et l'autre question, mais quel parcours vous a amené à faire ça, en fait, c'est-à-dire votre parcours associatif, votre parcours d'engagement ? La troisième question, désolée, je vous en fais trois en une, c'est pour gagner du temps. Pourquoi le nom Autium ? C'est vrai que moi, je connais pas le nom Autium de base. Bon, vous m'avez un peu informé, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi Autium ?
Alors, Autium, et ça répond effectivement, je pense, aux trois questions. Autium, c'est l'inverse du négocium, qu'on peut dire Autium aussi, je pense, mais...
Autium, oui.
En fait, en Grèce antique, le négocium, c'était tout ce qui était lié aux affaires. Et quand on parle des affaires, c'est vraiment le travail, tout ce qui doit être fait, toutes les injonctions sociales, familiales, etc. C'est vraiment le faire. Et à contrario, du coup, Autium, c'est plutôt l'être. Et dans ces structures de société, il y avait vraiment cette notion de... il y a des choses à faire qu'on regroupe dans un négocium, mais il y a aussi un temps dédié à l'être. Et c'était un temps qui était dédié pour tout le monde, pour tous les âges, où c'est comme une sorte d'introspection, mais pas que. C'était aussi une philosophie de vie d'être autre chose que de faire. d'être juste d'être, en fait.
Se retrouver, alors je sais pas si c'est ça, tu vas peut-être me redire, mais c'est un peu ce temps à se retrouver avec soi-même, ce que tu dis, un peu ce temps de rétrospection, d'être, etc. C'est un peu laisser tout ce qui nous entoure au quotidien et se retrouver soi-même, où je suis complètement hors sujet aussi.
Non, c'est pas complètement hors sujet, mais c'est pas forcément en lien avec la solitude.
D'accord.
Ça naît forcément d'une introspection, donc c'est intime, c'est interne, mais c'est plutôt de traverser son existence autrement qu'en servant à quelque chose. C'est juste traverser son existence en étant le plus libre possible d'être qui on est auprès de qui on a envie d'être et de pouvoir produire autre chose que quelque chose qui est induit par une tâche, une responsabilité, un travail.
D'être le plus soi-même possible. Enfin, je dis pas le plus soi-même, le plus. Est-ce qu'on pourrait dire le plus vrai de soi-même, c'est-à-dire d'être, oui, le plus soi-même, c'est-à-dire fidèle à soi-même, en face de soi-même.
Fidèle à soi-même.
Fidèle à soi-même. J'aurais pas mieux dit. Et ça raconte quoi de votre vision, tout ça ? Parce qu'un nom comme ça, quand on le choisit aussi, ça en dit long sur votre vision et votre regard. Ça fait trop de questions en même temps, non. Je le conçois.
Non, non, mais ça, c'est un beau parallèle, effectivement. Ça raconte de notre parcours, ça. C'est que Elena et moi, on est des personnes qui avons besoin d'espace pour exprimer et extérioriser qui on est. On a des parcours de vie où, à plusieurs moments, dans plusieurs sphères de nos vies, on n'a pas forcément eu cet espace d'être qui on est. Et aujourd'hui, on a cette envie de pouvoir créer cet espace-là, notamment pour les enfants. Parce que l'enfance, ça représente le moment où il y a le plus cette volonté de traverser son existence en étant totalement libre, en n'ayant aucune contrainte. Les enfants sont vraiment les plus... ils ont très peu d'entraves, en tout cas au début... émotionnelles, rien que émotionnelles, par exemple, ils expriment leurs émotions comme elles arrivent, elles sont brutes, elles sont... Et c'est vraiment tout le contexte qu'il y a autour qui va faire que les enfants vont se conformer à des attentes sociales, familiales, etc. Et on a envie de réinsuffler ça dans la société, dans nos rapports, dans nos liens interpersonnels, de laisser de nouveau la place à cette spontanéité de l'enfance et cette vérité brute, ne serait-ce qu'émotionnelle.
Et vos parcours, on va dire, parlent un peu de vous-même, parce que c'est vrai que sur la question de départ, quand je vous ai dit quel parcours vous a amené à là, c'est parce que, alors, au-delà du vécu aussi, il y a un peu de constat aussi, si je peux me permettre de rajouter ça en supplément.
Oui, c'est un constat qu'on a dû faire dans nos vies personnelles, mais aussi personnelles dans le sens notre individualité à nous, Elena et Clémence, mais aussi dans nos rôles de mère.
Pour être un peu plus dans le concret, alors vous le verrez en ligne aussi quand le lendemain vous aurez accès au replay, on vous donnera un peu plus d'informations et le lien aussi pour soutenir l'association et puis aussi pour voir ce qu'ils font. Mais dans ce que je vois, il y a des ateliers, dans ce que vous faites concrètement, on voit des ateliers, des formations, un soutien au projet existant. Enfin voilà, il y a une liste de ce que vous faites. Est-ce que vous pourrez un peu plus développer tout ça sur vos actions et comment ça s'articule ?
Alors, pour le moment, ça s'articule pas énormément, pour la simple et bonne raison qu'on est seules, toutes les deux, avec Clémence. On a eu quelques personnes qui ont rejoint le Hello Asso, plutôt pour avoir des informations de temps en temps, des newsletters, quand il y a des gros points évolutifs.
D'accord.
En l'occurrence, comme on est bénévole, travailleuse, parent à côté, ça ne voit pas vraiment le jour, très concrètement. L'idée, par exemple, pour les ateliers, ce serait de les réaliser dans des structures publiques, dans des structures privées, auprès même de particuliers. On est vraiment ouverte, en fait, on a de la liberté. On peut se déplacer sur place. Moi, si besoin, j'ai un cabinet également. Enfin, voilà, on a beaucoup de liberté. Le contenu des ateliers, ils sont faits par le biais de nos formations, parce que du coup, Clémence et moi, nous sommes doulas. Ok. Et donc moi de mon côté, donc on a été toutes les deux formées par deux sages-femmes québécoises, comme doula large spectre du coup. Et de mon côté, je suis plutôt axée sur la psychologie. Je me suis spécialisée dans le sommeil des 0-6 ans, donc je vais avoir des ateliers liés au sommeil des 0-6 ans. Clémence, elle a d'autres spécialités, en l'occurrence les grossesses gémellaires, le ribozo. Elle a d'autres choses qu'elle sait faire, ce qui va permettre de faire des ateliers sur ces sujets à elle. Et en fait, d'ailleurs, on est intéressé pour avoir des personnes qui rejoignent l'association. également pour proposer leurs compétences qui leur sont propres et proposer des ateliers, pourquoi pas, par le biais d'Autium, par exemple.
Avec la liste que vous proposez, quoi.
Tout à fait, c'est ça. Ils peuvent venir rajouter même des sujets, en fait, et créer leurs ateliers. Il y a vraiment beaucoup de souplesse. C'est une association qui peut être ouverte à presque n'importe qui, entre guillemets, tant que les valeurs sont conformes à ce que nous, on porte, évidemment, parce que sinon, ça perd son sens. Mais voilà.
C'est vrai que vous le dites, alors nous on le redit aussi, mais n'hésitez pas au fur et à mesure de l'interview à rejoindre aussi un peu cette aventure-là auquel vous pourrez aussi vous reconnaître, vous identifier aussi et puis pouvoir aussi proposer ou vous rejoindre aussi dans ce, que, dans ce qu'elle propose. C'est vrai que j'ai cité les ateliers, mais ça peut être des moments d'échange, ça peut être des formations, etc. Flore, je me tourne vers toi, parce que t'es bien là pour quelque chose.
peut-être quand même dire quelque chose.
Oui, t'as bien quelque chose à me dire. Là, comme ça, toi, c'est la première fois que tu entends un peu parler, j'aime pas dire comme ça, mais de ce type d'association. C'est quelque chose qui est nouveau. Tu as déjà vu ça auparavant. Voilà, bah, j'aimerais juste avoir ton regard aussi et pour compléter un peu le regard des filles.
Pour être très honnête, en fait, je suis en lien avec le Fab Lab qui propose plein d'ateliers autour, autour de la parentalité et ça touche un petit peu de tout. Mais le fait que ces jolies dames soient des doigts là, c'est un angle différent.
Je me permets d'entendre, c'est quoi des doigts là? Alors, parce que autant moi, depuis tout à l'heure, je fais oui de la tête sans savoir, mais est-ce qu'on peut m'expliquer ce que c'est une doigts là? Je ne sais pas comment on peut l'expliquer. Je ne sais pas si une de vous trois se porte volontaire pour nous expliquer aussi, au moins qu'on ne se sent pas isolé.
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va chacune donner notre définition du métier. Déjà, on dit doula.
Oui, alors si moi je commence déjà à mal le prononcer, on a un mauvais départ.
Il n'y a pas de problème. Ça vient de la Grèce encore. C'est un mot grec qui signifiait servante à l'époque. Et c'est des personnes qui gravitaient autour d'un système familial et qui étaient là pour supporter les familles dans des passages de vie importants, notamment le passage du devenir parent. Et donc c'est un métier qui vient d'Angleterre. Ils ont fondé une association qui s'appelle Donna International, quelque chose comme ça. Et c'est un métier qui existe depuis plus de 30 ans maintenant, je pense, en Angleterre et qui vient difficilement mais sûrement en France. C'est un métier qui n'est pas reconnu en France et qui suscite beaucoup de débats sur... oui.
Flore ?
Je voulais pas vous couper, hein. Je vous laissais juste pour préciser D'accord. que je demandais la parole. Oui, c'est un geste de radio. Est-ce que doula, c'est en accompagnement avec la sage-femme ou c'est pour remplacer la sage-femme ou c'est complètement autre chose? Comment que ça se passe par rapport à une sage-femme?
Alors, doula et sage-femme, c'est pas le même métier. C'est super important. C'est bien que tu poses la question parce qu'en l'occurrence, on n'est pas du tout des personnes médicales. Donc, les sage-femmes, elles ont leur spécialité. Nous, on a les nôtres. Différentes manières de l'appliquer, différents rapports avec les personnes qu'on accompagne aussi. Ce sont deux choses très différentes, très complémentaires. Par exemple, à titre personnel, on est favorable pour les sages-femmes. On a vraiment envie, une femme, une sage-femme, on trouve ça évident. Enfin voilà, on est vraiment pour les sages-femmes sans aucune hésitation. Et moi, par exemple, ça m'arrive de collaborer avec des sages-femmes pour des familles, mais uniquement de collaborer. En fait, c'est jamais seul face à des sages-femmes. Enfin voilà, je pense que ce serait important que justement on puisse se soutenir entre métiers parce que jusqu'ici, je pense que les doulas, comme c'est pas réglementé, on peut aussi ne pas être formé, on peut aussi avoir des gestes problématiques, j'imagine. Du coup, ça va être de notre responsabilité éthique, morale aussi, d'être formé, d'être adapté, de savoir avoir une posture qui est juste au sein de l'espace, notamment du coup vis-à-vis des soignants quand on est dans des maternités, parce que notre place est très particulière dans ce cas-là quand même. Et voilà, vraiment, moi je fais un appel pendant que j'y suis là pour les sages-femmes, ne nous voyez pas comme des concurrentes, comme des personnes qui prennent votre place. Enfin, au contraire, moi c'est ce que je dis à la sage-femme que j'accompagne là bientôt dans un accouchement à domicile. Je lui dis, mais si tu veux que je sois ta doula à toi, je peux masser la sage-femme. Je peux lui apporter de l'eau, vraiment, moi je suis de cet avis-là, mais ça me concerne moi et je parle bien sûr qu'en mon nom.
Alors justement, dans vos ateliers que vous proposerez, ça serait un accompagnement périnatal éventuellement, mais pas que. Je pense qu'il y a il y aura des ateliers en soins et en spiritualité peut-être pour les personnes.
Alors non. Non, la spiritualité, non. En fait, l'amalgame, il peut être rapidement fait avec le métier de doula, sûrement parce que il y a cette notion de quête de sens dans le métier de l'accompagnement doula dans la parentalité. Ça ressemble à une quête de sens du devenir parent, etc. Et donc, l'amalgame avec la spiritualité peut être fait. Alors, on ne va pas nier qu'il y a beaucoup de doulas qui pratiquent leur métier à travers la spiritualité. C'est une manière de pratiquer ce métier-là qui, encore une fois, n'étant pas réglementée, de toute façon, elles font bien ce qu'elles veulent. Mais ça ne saurait se réduire à ça. Le métier de doula n'a rien de spirituel, tout comme il n'a rien de médical, tout comme il n'a rien de psychologique. Alors effectivement, c'est un peu difficile du coup de le définir en ne le plaçant pas dans des cases qu'on a l'habitude de conceptualiser, mais il faut vraiment le voir comme c'est une aide extérieure. Et c'est les parents avec leur libre arbitre qui déterminent la manière dont on va être à leur service.
Je peux ?
Oui.
Okay. J'aimerais également rajouter, et ça me semble important, que chaque doula, enfin, les doulas normalement ont un socle de base d'études, normalement. Pas toutes, malheureusement, mais voilà, il y a toujours au moins une formation doula, enfin on l'espère, quelle qu'elle soit. En l'occurrence, pour Clémence et moi, du coup, doula large spectre, donc on accompagne de la préconception aux règles, à la ménopause, on a des formations sur le deuil, on a vraiment quelque chose d'assez vaste, c'est donc pour ça que ça s'appelle large spectre. Mais chaque doula a ses spécificités. Par exemple, j'ai une collègue qui est fertility doula, Clémence, du coup, dont je vous en parlais tout à l'heure, mais qui est un peu spécialiste de la gémellité, un peu spécialiste des ribosos, de d'autres choses encore, parce qu'elle a plein de compétences. Moi, du coup, dans le sommeil, comme je vous parlais, mais je suis également sexothérapeute, donc du coup, forcément, dans la sexualité à travers le couple, entre autres, dans les relations, tout ça. Et puis, comme je vous disais, bah, de par mes études de psychologie, moi, je me considère comme, en l'occurrence, une psychodoula. Mais personnellement, je me mets dans cette case plus psycho de la doula parce que j'ai les compétences qui vont avec. Mais chaque doula, par exemple, il y a des doulas qui font que le deuil, qui accompagnent que la mort. Il y a des doulas qui accompagnent que les naissances, rien d'autre, que les règles, certaines, que l'endométriose. Enfin, c'est vraiment...
Il n'y a qu'un champ, il peut y avoir un seul champ d'action.
Alors,
enfin, pas peut... un, mais un ou plusieurs, selon...
Ce qu'elle a fait comme étude, selon son bagage de formation, de stage. Et ça, du coup, j'invite les gens, de manière générale, à être regardants sur les stages, les formations, pas que des doulas, mais en fait, des professionnels qui vous suivent de manière générale. Donc, voilà.
Et du coup, vos ateliers seront axés à toutes ces formations. Vous pouvez autant proposer des ateliers, donc... Encore une fois, autour de la natalité, mais pas que, des ateliers en lien avec la sexologie, la sexualité, et puis éventuellement le ribosome, tout ça.
Le ribozo, c'est un soin, c'est un soin avec des foulards.
Oui, où on serre.
Exactement.
Peu.
C'est un soin qui sert à se sentir contenu. Et ça a vraiment des effets au niveau du bassin. Ça, c'est au niveau du bassin. Après, encore une fois, il y a plein de manières de pratiquer le soin ribozo. Moi, je pratique, par exemple, pas de soin ribozo. J'utilise un foulard ribozo pour faire des soins que moi, j'ai appelés contenance. Mais c'est normalement, c'est tout un rituel... qui vient du Mexique, je crois.
Oui.
Voilà.
Il y a des collègues qui pratiquent des soins complets également. Mm. Mais bon, il y a aussi la question de l'appropriation culturelle, qui est une autre question là, mais qui est assez touchy sur le ribozo dans le milieu des doulas.
En fait, on s'est complètement placé dans une niche extrêmement touchy. Voilà, parce que ça cristallise beaucoup de tensions, que ce soit la parentalité, que ce soit l'appropriation culturelle, que ce soit le service public, hospitalier, territorial. Voilà, donc on est des femmes de challenge complètement.
C'est vrai qu'on parlait d'action tout à l'heure, ou du moins celle que vous essayez de préparer, ou dont vous ou même tout simplement ce que vous avez construit jusqu'à aujourd'hui, sur tout ce que vous avez construit aujourd'hui, qu'est-ce qui vous rend le plus fier ? Parce qu'il y a la création, et puis il y a les démarches, etc. et tout. Et je pense que dans le parcours, il y a toujours quelque chose qui nous rend fiers. Vous, qu'est-ce qui vous rend fier ?
Ok, alors je me permets du coup de prendre la parole également. Moi, ce qui va me rendre le plus fier, et je pense que Clémence nous rejoindra probablement, mais c'est le fait d'avoir tenu bon. C'est-à-dire que ça fait quand même donc depuis 2024 que l'association elle existe. Le projet d'école, il s'est créé très rapidement dans nos têtes, mais aussi de façon concrète, matérielle, dans les contrats RH, dans l'ingénierie pédagogique, dans une formation obligatoire pour les professeurs et même de manière générale pour tous les professionnels au sein des établissements Autium. Et en fait, en tout cas personnellement, j'ai vraiment été face à beaucoup de personnes très très réfractaires. J'ai même eu j'ai fait jusqu'ici 34 maires comme rencontre pour chercher des locaux. J'ai eu des maires incroyables qui comprenaient mais qui n'avaient malheureusement pas de locaux. J'ai aussi eu des maires qui étaient violents verbalement, qui s'en prenaient à moi de façon vraiment virulente. Et malgré ça, malgré le fait qu'on était toute seule pour le porter, on a quand même tenu bon et continué d'avancer sur le projet et continué de le porter. Donc moi vraiment, ma fierté number one, c'est vraiment ça, de se battre de toute notre âme jusqu'à ce que ça le voie le jour. Et c'est pas une option que ça voie pas le jour.
C'est cette forme de résilience en fait qui vous rend fier. C'est ce que c'est en regardant, on va dire, derrière tout en regardant devant soi, c'est se dire c'est cette résilience qui me rend chaque jour fier, parce que on a traversé des étapes et voilà, il y a beaucoup de moments dans la vie d'une association ou de personnes engagées où parfois certains auraient baissé les bras, d'autres auraient continué, et puis là vous le mentionnez, c'est ça en fait qui fait votre fierté, c'est votre résilience.
Oui, je dirais plutôt même la persévérance.
La persévérance en fait, oui. Clémence, un peu dans le même élan aussi de fierté ou non, ou encore quelque chose en plus peut-être?
Oui, bah en fait c'est surtout que moi ce qui me rend le plus fier, c'est d'avoir trouvé quelqu'un qui partage les mêmes valeurs et surtout qui a cette force d'exécution remarquable. Et c'est vrai que Elena, c'est la persévérance complètement, mais ce qui me rend fier, c'est d'avoir réussi à malgré nos parcours de vie pas simples et nos idées totalement en marge de la société, de se dire on va quand même se faire une place pour faire de la place pour tout le monde. Autium, c'est vraiment ça, c'est inspirer les autres, genre regardez nous comme c'est difficile de se faire une place, mais on va se créer une place pour élargir les bords, pour qu'il y ait de la place pour tout le monde.
Mais justement, cette place, merci pour la petite perche entre deux, cette place justement que vous faites, notamment sur le public, quel public vous vient le plus naturellement? C'est-à-dire là, dans les débuts que vous avez créés, il y a eu peut-être des retours, des regards, des avis. Qu'est-ce qui vient le plus naturellement? C'est des parents qui, on va dire, qui sont intéressés, des professionnels, des collectivités, à peu près qui ?
Globalement, c'est les familles. Moi, j'ai des appels régulièrement, en fait, même plutôt, hein, ça m'arrive au moins une fois par semaine d'avoir des familles qui m'appellent et qui témoignent des violences, malheureusement, vécues par leurs enfants dans le système public actuellement. Voilà, des violences, parfois juste des violences éducatives ordinaires, juste entre grandes guillemets, parfois des violences plus marquées. Et c'est des choses que j'entends tout le temps, avec des exemples nouveaux tout le temps, des punitions toujours plus inadaptées et parfaitement ignobles, absolument pas du tout respectueuses du fait qu'on doit considérer que les enfants sont des êtres humains à part entière, tout comme nous. On a vraiment cette tendance en France particulièrement à s'adresser aux enfants comme si ils étaient moins bien que des adultes, avec condescendance, avec mépris, souvent en se moquant d'eux. Moi, ça, c'est quelque chose que je trouve scandaleux. Enfin, par exemple, on a une facilité à dire « je déteste les enfants », c'est socialement accepté. On dirait « je déteste les femmes, je déteste les handicapés », ça passerait pas, et heureusement. Et du coup, on se questionne sur pourquoi ça passe pour les enfants. À quel moment on se dit que les enfants qui, justement, n'ont pas un cerveau mature avant 25 ans, ont besoin d'apprendre à réguler leurs émotions, à faire société, comment c'est possible que ce soit eux qu'on traite comme ça? Et pourtant, les enfants, c'est le public, c'est la classe sociale qui vit le plus de violence actuellement.
Et puis l'enfance, c'est aussi un âge où on est un peu dans l'apprentissage. Il y a des choses qu'on ne sait pas, qu'on apprend, comme par exemple un enfant de 5 ans, de 6 ans, de 7 ans est toujours dans son apprentissage.
Oui, puis l'apprentissage, il se fait, donc, comme je vous le disais, même d'un point de vue pour ne pas parler de choses subjectives, on va prendre des exemples physiques, physiologiques, dans les neurosciences affectives actuelles, on voit bien que le développement du cerveau, donc on parle vraiment de la taille, de tout ce qui permet de gérer les émotions, par exemple, n'est pas assez développé pour permettre justement de gérer ou pour permettre de s'empêcher de faire certaines actions. Les adultes vont y mettre un sens, comme par exemple dire que c'est de la provocation, c'est un caprice, machin. Le caprice, scientifiquement, ça n'existe pas. Du tout. Ni avant 6 mois, ni machin. Non, non, ça n'existe pas. Donc, il y a quand même des tendances qui tendent à dire oui, il n'y a pas de caprice avant 6 ans. C'est toujours mieux de penser qu'il y a des caprices à 6 mois, sauf qu'en fait, en l'occurrence, ça n'existe pas du tout. C'est un concept social, le caprice. Et du coup, c'est vraiment intéressant de se détacher de tous ces concepts-là, d'enfant roi, de machin, de caprice. Non, stop, ce sont juste des enfants, des boules d'explosion émotionnelle.
Oui, d'autant plus, je voulais vous demander.